Nous allons parler dans quelques secondes aux deux chefs de police, qui étaient d'ailleurs en conférence de presse cet avant-midi, concernant ce qui s'en vient la semaine prochaine, la légalisation de la marijuana. Comment les corps de police vont agir? On sait que le service de police de Sherbrooke aura le règlement, entre autres, municipal, alors que pour la régie de police Memphrey-Magog, elle risque d'avoir des différences dans son application parce que la ville de Magog, elle, s'enligne sur la ligne dure, comme Sherbrooke, interdiction de consommer dans tout lieu public. Alors que certaines municipalités qui sont sous, si on veut, ou dans le territoire de la régie de police Memphrey-Magog, ben c'est pas la même réglementation qu'on adopte. On suit celle, entre autres, recommandée par la santé publique d'avoir une certaine liberté de consommation. Oh! Et ça va se passer comment aussi à l'interne? T'sais, on s'entend que pour tout employeur, puis entre autres pour les policiers, il doit y avoir des politiques. Parce que c'est légal. Ça va devenir légal, fumer du pot. Puis hier, le président de l'Association des policiers policières de Sherbrooke, M. Beaudoin, nous disait, puis il se mettait pas la tête dans le sable, il disait clairement, il disait, c'est impossible que 100% de nos membres ne fument pas, là, ne consomment pas. Alors, comment on va agir? C'est quoi la règle à l'interne? Et on s'entend que si le gars ou la fille arrive gelé sa job, là, il va avoir des conséquences. Mais c'est pas écrit dans le front nécessairement. Allons rencontrer d'abord le chef, le directeur du service de police de Sherbrooke, Danny McConnell. Bonjour, chef.
Bonjour, M. Pelletier.
Ah, M. McConnell, on s'en est déjà parlé. C'est une méchante bébite qu'on lance dans votre cours, l'application de toute la réglementation liée à la légalisation du pot, là.
Oui, oui, tout à fait. Depuis le moment où ça a été annoncé par le gouvernement fédéral, ça restera toujours pour nous un grand enjeu dans l'applicabilité de tous ces aspects-là, là, autant au niveau de la consommation proprement dit dans les rues, jusqu'à dans l'application et le suivi qu'on aura à faire au niveau des mariculteurs et des le trafic de ça.
Oui, parce que d'ailleurs, vous avez confirmé aujourd'hui avoir une entente avec votre voisine, la régie de police Memphrey-Magog, pour créer en quelque sorte là une escouade contre les vendeurs illégaux.
Oui, vous savez, oui, tout à fait juste, M. Pelletier, cette association-là, tant qu'à nous, était bénéfique afin d'optimiser nos interventions sur le territoire, tant Sherbrooke que Memphrey-Magog, du fait que c'est souvent les mêmes consommateurs, les mêmes trafiquants, vous savez. Et on a voulu mettre et soutenu, il faut le mentionner, hein, par le ministère de la Sécurité publique, sous la même forme un peu qui existe déjà dans accès tabac et accès alcool, c'est-à-dire un groupe là, pour gérer les actions concertées contre les économies souterraines.
Oui. Mais question de même, technique un peu, là. Comment vos policiers, vos enquêteurs vont être capables d'identifier que ça, c'est du pot illégal, ça, c'est du pot légal?
Alors, vous savez, il y a un processus qui est mis en place qui sera démontré en temps et lieu parce qu'on comprendra tout rapidement.
Hein. Ben oui.
Dans l'application, dans la formation, dans la préparation de nos policiers et de la population, si on peut le dire. Alors, pour la reconnaissance d'une drogue licite ou illicite, ça sera du fait un peu comme le tabac où les empaquetages et les joints sont marqués. Il y a quelque chose qui nous permet de les reconnaître.
Oui. Mais en même temps, excusez-moi, là, mais une cocotte qui va être légale ou illégale, ça ne sera pas écrit dessus, là.
Ah non, tout à fait, c'est ça. Ouais. Alors, tout de là encore, là, toute la difficulté là, dans son application.
Oui, hein. Parlons-en justement, parce que là, on est à une semaine, là, on n'est pas dans 6 mois, dans 1 an, on est à une semaine de l'application. D'abord, directive à l'interne à vos policiers, policières. C'est quoi le code de conduite? Parce que du pot, ça reste dans le sang, puis il n'est pas dit que le policier ou la policière n'a pas fumé un petit joint autour d'un feu de camp la fin de semaine, mais qu'il est bien clean quand il entre au travail le lundi matin. Comment vous allez gérer ça? C'est quoi la directive donnée à vos membres?
En fait, il y a une politique ville administrative qui a été mise en place, autant en matière d'alcool, de cannabis ou de médicaments sous ordonnance. C'est traité un peu de la même façon. Mais le cannabis demeure une drogue, il faut se le dire.
Oui.
Alors, nous, il y a deux grands principes pour lesquels on veut que nos policiers s'associe, c'est qu'il n'y aura nécessairement aucune confirmation sur les heures de travail dans les locaux, ça va de soi.
Oui.
Mais aussi que nos policiers doivent être aptes en tout temps à exercer leurs fonctions. On dit un peu en anglais, si vous me permettez, le fit for duty.
Oui, oui.
À partir de ce moment-là,
prêt à agir.
Réagir.
Ouais.
Mais je vous dirais, vous me devancez un petit peu, parce que je n'ai pas eu le temps encore de rencontrer tous mes policiers.
Okay.
J'espère qu'ils ne seront pas choqués de ça, mais
ouais.
Afin de guider, pour ceux qui aimeraient consommer du cannabis, et ce qui est peu recommandable tant qu'à moi comme directeur, on demande une période de tampon de 24 heures avant de l'entrée en fonction, qui devrait minimalement être pratiquée par des potentiels consommateurs.
Ouais. C'est légal. Je pense pas que vous empêchiez vos policiers et policières de prendre un petit vino la fin de semaine en congé, mettons. Hein?
Oui, c'est tout à fait juste. Mais par contre, je dirais qu'en marge des valeurs, de nos valeurs comme policiers, l'image, la fonction, la mission qu'on a comme policiers, puis nos responsabilités, on se doit, vis-à-vis de la population, nos collègues, puis notre propre santé et sécurité, demeurer très vigilant par rapport à cette consommation-là.
Oui. Et dans l'application de la réglementation, pour vous, à la ville de Sherbrooke, c'est une chose parce que la ville, le territoire que vous couvrez, c'est celui de la ville. Donc, une réglementation, c'est la ligne dure, c'est une interdiction à tout temps. Est-ce que vos patrouilleurs vont donner des tickets sur le bord du chemin à des gens qui vont fumer un gros joint?
Ben non, je vais rappeler là-dedans que ce sera géré en priorité, selon les priorités et la quantité d'appels auxquels on aura à faire face.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'on va toujours gérer au niveau des débordements d'abord,
ouais.
et par rapport au moment où il y aura d'appels du désordre public, on va intervenir et si le cannabis sera là, on sera au moment, à ce moment-là, en mesure d'appliquer la réglementation principale. Okay. Mais vous savez, un des grands enjeux qu'on a aussi, c'est qu'on doit appliquer différentes compétences municipales, provinciales et fédérales.
Oui.
C'est vraiment pour nous un grand défi là, à passer à travers tout ça.
Oui, parce que là, on a quasi trois réglementations, hein? Une municipale, une provinciale, puis le code criminel au fédéral, plus la
Exactement.
Légalisation fédérale.
Exactement, selon les quantités qu'on servira. Mais vous savez, on ne partira pas, on va se dire, à la chasse aux sorcières pour le 18 au matin à quelqu'un qui consomme du cannabis. Mais par contre, si on est confronté à ça, les policiers auront par discernement à intervenir.
Oui, parce qu'on s'entend que pour bien du monde, là, ça ne changera rien le 18 octobre.
Bien, vous savez, il y en a qui ont pensé un peu au bug de l'an 2000. Le 18 au matin, la ville va continuer à bien aller. Il y aura peut-être plus de consommateurs, on le croit, on va le vivre, devra le vivre. Il n'y a pas de référence canadienne à ce niveau-là. Alors, il faudra s'ajuster au fur et à mesure.
Danny McConnell, merci d'avoir été là.
Au plaisir, M. Petit, bon après-midi.
Merci beaucoup. C'est le directeur du service de police de Sherbrooke qui... Je veux aussi en discuter avec le directeur de la régie de police, Memphrey Magog, Guy Roy. Bonjour, M. Roy.
Bonjour, M. Pelletier.
Vous aurez une autre réalité, c'est-à-dire à conjuguer avec des règlements municipaux différents de la ville versus d'autres municipalités, là.
Oui, effectivement. Sur l'ensemble du territoire qu'on dessert, on dessert quatre municipalités, dont une qui applique la ligne plus dure comme Sherbrooke, comme vous dites, et les trois autres qui se reposent sur la loi qui régit le tabac.
Et la recommandation de la santé publique, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine permission lieu public.
Effectivement.
OK. Ça va être le fun pour vos patrouilleurs, patrouilleuses?
Ben, écoutez, M. Pelletier, je ne vous cacherai pas que nous, on est confrontés à différentes réglementations municipales par rapport aux municipalités depuis des années.
Ouais.
Chaque municipalité est légitimée d'adopter le règlement qu'il veut, autant au niveau de la marijuana. Je peux vous faire la même parallèle très facile au niveau des stationnements de nuit ou des stationnements dans la rue. J'ai quatre municipalités, quatre règlements différents qui sont vraiment différents des quatre.
Okay.
Fait qu'on est habitué à ce genre d'exercice-là des municipalités. On s'ajuste en conséquence.
Ouais. C'était important pour vous de vous jumeler au service de police de Sherbrooke pour créer cette escouade contre ceux qui seront des illégaux qui ne se procureront pas le pot légal?
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison quand vous stipulez là, que c'est important pour nous parce que notre prémisse, une des prémisses qu'on avait quand que la loi a sorti, c'est-à-dire comment on va être en mesure de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables.
Mmh.
Et pour nous, les plus vulnérables, c'est les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, ceux qui ne sont pas légalement en âge de pouvoir en acheter et en consommer.
Ouais.
En effectuant un escouade, on veut s'attaquer à la criminalité souterraine, mais également où est-ce que ces personnes-là peuvent s'en procurer.
Mais
donc, en même temps, on travaille à partir des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables.
Mais en même temps, là, pour l'amorce, si on veut, de la période de légalisation, il y aura une boutique de la Société québécoise du pot, elle sera à Drummondville. Mais à part ça, là, ceux qui potent déjà, là, ils vont continuer de s'alimenter auprès de leurs pusheurs. Là, ça ne changera pas. Là.
Faut faire attention.
Ça,
toute réserve, oui, parce que la vente par Internet est légale. Le mécanisme qui était mis en place au niveau de la vente par Internet, donc les citoyens de Sherbrooke ou du territoire de la Régie de police, M. McGregor, vont pouvoir se procurer par Internet, légalement, de la marijuana, avec une disposition que je ne connais pas tout au complet, là, mais qui est vraiment contrôlée par le ministère à ce moment-là.
Oui, mais je vous lance la même question que j'ai posée à M. McConnell. Comment on va différencier le sac de potes légal de l'illégal, même si on me dit « Ah, il y a la petite étiquette », il y a bien des gens qui vont transférer ça dans une petite boîte ou...
Bien, tout à fait. Je pense que le consommateur ou la personne qui sera en possession devra être en mesure de démontrer à quel endroit il se l'est procuré.
Ah,
on vit la même chose au niveau de l'alcool de contrebande et on vit la même chose au niveau du tabac de contrebande. L'alcool de contrebande, quand on rentre dans un établissement licencié, on a des mécanismes qui font en sorte qu'on est capable de déterminer si c'est de l'alcool qui vient du côté américain ou de l'alcool de contrebande que de l'alcool qui vient qui est légiféré par la SAQ. Il va sûrement y avoir, on souhaite qu'il va y avoir des mécanismes qui vont nous permettre de mieux encadrer ce volet-là.
Ouais. Pour vos policiers, les directives à la Régie de police, même Frémagog, est-ce que c'est un peu le même scénario qu'au SPS, le 24 heures tampon, parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. On peut pas dire aujourd'hui que 100% de vos membres ne consomment pas, là, ou ne consommeront pas. Là.
Ben, j'ai mis votre deuxième partie. Ne consommeront pas. Je peux vous dire que j'ose espérer que d'ici le 19 novembre, le 19 octobre, dans les prochains jours, que je n'ai pas de policiers qui ont consommé, parce qu'on sait qu'actuellement, c'est illégal.
Comment
est-ce que ça va devenir légal? Je vous dirais que, effectivement, ce qu'on demande à nos policiers, la directive n'est pas terminée, mais ce qu'on demande, alors ce qu'on va demander à l'intérieur de la directive aux policiers, c'est d'être en mesure de répondre et de travailler en fonction de 100% de leur capacité. Donc, il va y avoir effectivement possiblement une zone tampon qu'on va instaurer et on va fonctionner. On fonctionne de la même façon actuellement, je ne vous cacherai pas, M. Pelletier, au niveau de l'alcool ou certaines médications, certains stupéfiants. Fait que ce que ça vient rajouter, c'est une partie plus qui est la marijuana.
OK, parce que c'est pas écrit dans le front de personne. T'sais, on a beau nous dire « Ah, les yeux rouges », mais bon...
Non, c'est effectivement. Il y a d'autres... Puis il faut savoir aussi que nos policiers sont formés depuis maintenant... quelques années en matière de détection, mais c'est pas effectivement écrit ni sur le bras ni dans le front que vous venez de consommer. Pas plus que vous avez pris une quantité supérieure de médication qui font en sorte que vous êtes peut-être moins apte à travailler.
Et ce sera la même chose aussi pour les délinquants au volant. On nous dit que il y aura des appareils, puis que on pourra les utiliser. Puis encore là, va falloir voir aussi, parce qu'on s'entend déjà des contestations devant les tribunaux. Ça aussi, va falloir ça se mettre en place pour vos gens, là, vos patrouilleurs.
Vous avez tout à fait raison. Il faut savoir, par contre, qu'actuellement, maintenant, depuis plusieurs années, les policiers procèdent à des arrestations pour des gens qui sont en conduite et capacité affaiblie par les drogues. Et il y a des dossiers qui sont déposés à la cour sur le territoire de la Régie de police de Frémagog. Je vous dirais, depuis les dernières années, entre 10 et 15 dossiers qui sont déposés annuellement en matière de stupéfiants. Fait qu'on va y aller avec les mêmes motifs qu'on avait auparavant, tant qu'on ne présentera pas un appareil qui va être trop passé
l'épreuve
de la loi.
Une belle affaire, pareil, M. Roy, hein?
Oui, c'est un beau cadeau.
cadeau empoisonné un peu quand même, parce que ça revient à vos corps de police, je veux dire, au bout de la ligne, là, parce que c'est beau le rendre légal, mais dans l'application de tout ça, ça reste ceux qui appliquent la loi, donc vous, les policiers policières.
Bien, on pourrait dire, on va faire un parallèle, qu'on est la fin de la chaîne alimentaire.
Oui.
Tous les mécanismes qui ont été pris en place. Et écoutez, juste au niveau de la consommation, on parle beaucoup des policiers actuellement, depuis quelques jours, on a questionné beaucoup, mais c'est la même chose pour pratiquement tous les corps de métier.
Absolument.
Un chirurgien, pas parce qu'aujourd'hui que la marijuana est légale, qu'une institution, un hôpital va accepter qu'un neurochirurgien va faire une opération quand il a fumé deux heures avant.
Qui est géré. Non, on s'entend. Puis même les employeurs qui se doivent aussi d'adopter des politiques, parce qu'il y en a pour l'alcool, il y en a pour bien d'autres... dépendance ou peu importe, il y en aura aussi pour le pote.
Ben, vous avez tout à fait raison.
Merci, M. Roy.
Ça me fait plaisir.
Merci. Guy Roy, le directeur de la Régie de police, même Frémagog. Juste avant, on avait le directeur du service de police de Sherbrooke. Mais moi, je suis convaincu que au moment de la légalisation, là, ça pas trop au coin de tous les coins de rue. Là. Pas sûr que ça va changer grand-chose, on verra.